éclectique, locale, thématique, sociétale, environnementale. Lumière à l'échelle locale de l'actualité nationale, internationale.
Bonsoir à toutes et à toutes pour cette toute dernière émission d'Un air de vie sur votre radio préférée Principe Actif, toujours avec votre trio insolite. Salut Jérôme.
Salut Kevin.
Salut Fred.
Salut Kevin, enfin la dernière émission de la saison.
De la saison, hein. Exactement, de la saison, la première saison. Et nous avons un invité aujourd'hui, nous recevons Antoine.
Jean-Jacques.
Mais nous l'appellerons Jean-Paul.
Timothée, je suis désolé.
Il n'y a pas de souci.
Alors Timothée, d'ailleurs tu représentes Espace Info Énergie sur Évreux.
C'est bien ça.
Sujet sur lequel on a déjà parlé dans nos précédentes émissions. Et qu'on aura donc l'honneur
sujet
de retrouver.
Sujet où Jérôme était allé en immersion à titre personnel.
Je vais revenir.
Voilà, c'est le vrai sujet concret, local, suite à tous nos débats.
Suite aux propos de Jérôme, ils ont souhaité
intervenir
à l'antenne.
Voilà.
Alors pour commencer,
bon, pour rappeler quand même le thème du jour, on va parler un petit peu de thématiques apocalyptiques. Bah. Mais avant tout, on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité. Et on va commencer par Fred, tiens.
Alors l'actualité de ces derniers jours, c'est les panneaux solaires chinois qui vont être surtaxés. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Alors moi j'avais entendu parler des panneaux solaires chinois il y a quelques temps, comme quoi les Chinois ne pourraient plus nous en vendre parce qu'ils en avaient tellement besoin pour eux-mêmes qu'ils pourraient plus les exporter. Et là finalement il y a une décision européenne qui a été mise en place pour essayer de freiner les importations. Les Allemands sont défavorables, les Français sont favorable pour défendre des emplois européens.
Alors tu peux peut-être nous éclaircir, mais en fait on va freiner leur exportation de panneaux, leurs panneaux solaires, mais pour quelles raisons? Des raisons techniques ou simplement de protectionnisme économique?
Pour moi, dans ce que j'en ai compris, ce serait plutôt une forme de protectionnisme. Après, c'est vrai que derrière, après il y a la qualité des produits et tout ça, mais j'ai pas l'impression non plus que le marché du photovoltaïque français soit très appuyé actuellement en France. Enfin, peut-être que Timothée peut répondre.
On l'a pas favorisé, on va dire, hein. Voilà. Depuis le moratoire, il a eu un petit coup de choc, on va dire. Donc,
il y avait des entreprises françaises qui étaient à une époque, pas dans le haut, mais qui produisaient, et ces entreprises-là, on peut pas dire qu'elles étaient favorisées par les différentes lois et notamment par les subventions qui ont disparu et tout ça. Je veux dire, c'est bien d'attaquer les Chinois, mais ça serait bien au départ de défendre plus les entreprises françaises.
Ok, d'accord. Bon, ça c'est.
C'est un point de vue.
Un mauvais point donné aux Chinois.
Non, un bon point.
Oui, enfin, il y a un bon point si tu veux, Jérôme.
L'autre thème, c'est le prix de l'énergie électrique en France, et notamment le débat sur la prise en compte du coût de démantèlement des centrales nucléaires.
Ouais.
Et donc, on a eu un éclairage particulier par Arte, nos confrères. Non.
Nos
amis d'Arte qui ont fait un très beau reportage, un documentaire.
Ouais, on les félicite. Hein.
Qui pose une question terrible. Est-ce que faut-il vraiment démonter une centrale nucléaire? Vu son coût, vu les difficultés techniques, etc.
C'est-à-dire qu'il faudrait tout le temps la faire tourner à vie, quoi.
Non, ou la laisser mourir, voilà.
D'accord.
Puis après, tu fais des rêves dedans. Tout ça.
Ah oui, d'accord.
Alors, tu fais des mauvais rêves, des cauchemars.
Laisser des zones à ne plus approcher.
Ce qui ressort de ce reportage-là, c'est l'incapacité complète de les démanteler totalement. C'est-à-dire qu'il y a le modèle américain où ils démontent, tout le produit radioactif, finalement, il coule sous béton et il le laisse sur place, puisqu'ils sont incapables de le stocker. On avait parlé du problème du stockage à une émission avant. Et derrière ça, ce problème-là se pose partout. Et c'est vrai que le coût du démantèlement est énorme actuellement. Il n'est pas du tout pris en compte dans la facture EDF française, alors qu'il y a eu un débat il y a deux ou trois semaines
parlé déjà précédemment.
Sur le sujet. Mmh. Et au-delà de ça, ça permet aujourd'hui au patron d'EDF de sortir du débat sur la transition énergétique en disant que ça revalorisait encore le nucléaire, comme quoi c'est une source de production qui est très non émettrice de CO2, donc par rapport aux problèmes du réchauffement climatique qui sont dedans. Après, si on enlève le coût du démantèlement du prix de vente, c'est vrai que ça pose un problème, et derrière ça, il y a quand même ce déchet radioactif dont on ne sait que faire.
Mais pourtant, on en parlait entre nous, mais malgré tout ça, ce sujet-là du démantèlement, finalement, il commence à avoir une résonance, une caisse de résonance en France, où finalement, on met quand même le nucléaire en avant.
Alors l'autre aspect, l'autre point de vue de ce reportage, hein, donc on rappelle, hein, diffusé sur Arte, s'appelle Le démantèlement impossible.
D'ailleurs, je tiens à dire que Arte nous cite très rarement.
Ouais, donc il faudrait qu'on le rappelle. Donc l'autre aspect de ce reportage, c'est entre guillemets le coût humain de ce démantèlement, puisque il y a quelques années, sur les chantiers de démantèlement en cours en France, et il y en a très peu, plus de la moitié, les trois quarts des employés des sociétés qui étaient sur ces chantiers, en fait, étaient sous couvert de la convention collective sidérurgie. Mmh. Et aujourd'hui,
donc pas du tout adapté.
Bah si, plutôt. Et aujourd'hui, plus de 50% sont sous la convention collective nettoyage.
D'accord.
Donc ça montre aujourd'hui qu'on essaie de faire du démantèlement au rabais et qu'on fait venir des personnes qui ne sont quasiment pas formées.
Pas formées. Et surtout, alors non formées et après non suivies, non reconnues comme telles et les gens qui sont après lâchés sur le, avec leur maladie, tout ça. Mais après, c'est très dur pour eux de faire reconnaître les maladies lié à la participation au démantèlement. Quoi. Donc c'est des gens qui sont un peu laissés, enfin on laisse le sale boulot au précaire un petit peu.
Très bien, ouais. Autre sujet d'actualité peut-être ?
Bah, je crois que tu en avais un qui te tenait
et
à cœur.
Oui, bah, alors déjà j'en ai plusieurs, mais déjà pour faire un petit rappel avec notre précédente émission sur les gaz de schiste, il y a un bouquin qui est sorti tout récemment qui s'appelle « Le mirage du gaz de schiste ». Et donc il est édité aux éditions Max Milo, il est très intéressant parce que c'est fait par un économiste. Et car aujourd'hui en France il y a un débat, mais le débat est un petit peu il est un petit peu faussé, car on essaie de mettre des prétentions écologiques, etc., mais on sait très bien que tout dépend en fait de l'expertise technique pour pouvoir extraire ce gaz. Et finalement, un économiste s'est penché sur le sujet et en fait on s'est rendu compte qu'aujourd'hui en France, le MEDEF qui approuve et qui essaye de développer cette technique là font des comparatifs avec les États-Unis, sauf que nous n'avons pas du tout la même structure économique que les États-Unis. Et pour faire un petit exemple, et cet auteur nous le rappelle, aux États-Unis il y a plus de 600 000 puits en fait de gaz de schiste. 600 000, c'est énorme. Pour combien de créations d'emplois ? 500 000. Donc ça fait quasiment un emploi à même moins d'une personne par puits. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on crée un puits, on diminue la valeur aussi de l'immobilier, etc. En France, on n'a pas la même capacité de création de puits qu'on peut faire aux États-Unis. Si on le fait, on devra le faire énormément, tous les jours, etc. On risque même de détruire du patrimoine. Donc ce qui fait qu'en fait, les répercussions économiques qui sont mises avancées par le MEDEF sont fausses et non avenues. Et d'ailleurs, même des économistes américains ont remarqué que sur le développement du gaz de schiste aux États-Unis, il y a comme pour la bourse, une sorte de bulle spéculative qui s'est développée. Et qui s'est développé, et finalement après ça retombe. Donc les intérêts n'est pas économiquement viable pour la société. On peut effectivement faire de l'argent avec les gaz de schiste, mais à très court terme pour très très peu d'individus.
Timothée, toi un petit coup de gueule, un petit coup de cœur dans l'actualité de l'environnement
Moi, si j'en avais un avec ma petite casquette Espace Info Énergie locale, je dirais que bon, c'est un petit coup de gueule contre les démarchages intempestifs à destination des personnes qui sont pas forcément toujours en capacité d'y résister, hein, des personnes plutôt âgées, un peu précaires, etc. Donc c'est un petit peu un démarchage que je trouve, moi, de mon point de vue, immoral.
Un démarchage sur...
au téléphone,
Voilà, c'est des téléphones partout, en fait, surtout téléphone et essentiellement sur des énergies de type photovoltaïque et éolienne, qui sont non pas mauvaises, mais dans ce cas-là, pour ces personnes-là, pas du tout la bonne solution, quoi.
Ce sont non seulement des mauvaises solutions, et c'est même de l'abus de personne, en fait.
C'est un peu ça, c'est un peu ça que je voulais dire.
Bon, bah, c'est très bien. Allez, à tout de suite pour votre dernière émission, Dernière de vie.
Écoute, téléphone, je sais pas.
Bonjour à tous, voici de retour sur Principe Actif dans votre émission Un air de vie. Et la thématique du jour, l'apocalypse, Jérôme.
La fin du monde.
La fin du monde.
The end of the world. Oui, on termine l'année 2012-2013. On est une année où l'apocalypse a pris une grande place. Je crois que une des bonnes nouvelles de l'année, c'est qu'on a tous survécu au 21 décembre. Et dans le cadre de ce jour...
Il y en a qui ont cru, non, peut-être, ici, sur le plateau.
Alors, oui,
Jérôme.
C'est que Jérôme avait stocké beaucoup de sucre.
Caché sous la table,
j'ai
ce soir-là.
Abri, j'ai regardé Tech Shelter, j'ai fait un abri, tout ça.
Ah ouais, t'as fait l'abri. T'as pris pour un taré.
Il était au taquet, mais bon, dommage. Quoi. C'est le 22 qu'il était un peu fâché. Et donc, dans le cadre de cette année un peu exceptionnelle, on voulait s'intéresser à la fin du monde. La fin du monde, il existe plusieurs scénarios, alors plus ou moins réalistes. Le plus réaliste d'entre tous, c'est l'engloutissement par un soleil gargantuesque, c'est-à-dire notre galaxie a eu un début et une fin, et donc d'ici 4,8 milliards d'années, oui, le soleil va...
C'est marrant, c'est un petit peu d'actualité, parce que là, on parlait du trou coronal du soleil.
4,8 milliards d'années, ouais, c'est d'actualité.
C'est d'actualité, mais...
Non, j'ai entendu parler des vents solaires, là.
Non. Ah
ouais. Bon, pas grave, passons.
Je ne regarde pas la météo solaire. Mais donc, voilà, celle-ci, on n'y échappera pas. Hein. Je peux faire mon Nostradamus, hein. Elle va arriver, 4,8 milliards d'années.
Le 21 décembre aussi, c'est ça?
Donc non, à 12 septembre.
Donc on peut dire ça, c'est une fin inéluctable. Enfin, voilà, on peut pas y échapper.
C'est la durée
quoi.
De vie okay. moyenne de notre système solaire. Derrière ça, il y a plusieurs scénarios entre les éruptions de chaînes de supervolcans, l'hiver nucléaire dû à une catastrophe.
Alors, on peut s'arrêter sur les volcans, parce qu'on nous parle beaucoup des volcans islandais, mais en fait, c'est pas eux les plus menaçants, au bout du compte. Alors là, c'est un volcan. Ah oui. États-Unis, américain.
Ah ouais. Ouais. Volcano, ils en ont fait un film d'ailleurs.
Ouais, ouais. Donc,
Stratovolcan.
Voilà, ouais. qui serait, c'est lui qui où il y a une plus forte probabilité qui se réveille.
Qui se réveille.
Explose.
Tout simplement. C'est le volcan. Mais genre qui se réveille et qui ça change le climat quoi. Ouais. À ce point-là.
Ah ouais, ouais.
Oui. Alors d'accord. L'éruption d'un super volcan se caractérise par l'envoi dans l'atmosphère de plusieurs centaines de kilomètres cubes de cendres et de magma et donc ça recouvrait tout la surface et donc pourrait entraîner des bouleversements tels qu'on s'orienterait.
Ah, ça fait peur. Alors, est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes au courant, est-ce qu'on a des parades contre les éruptions volcaniques qui vont changer la planète Terre?
Oui, on a demandé aux habitants.
Qu'est-ce qu'on a prévu contre ça?
On a demandé aux habitants pour pays pour qu'ils nous disent ce qu'on doit faire.
Où vont nos impôts là? Ouais. Qu'est-ce qui se passe en fait?
Non, on ne sait pas.
Il n'y a rien en fait. Ah, d'accord. Okay.
C'est pour ça que ça s'appelle l'apocalypse.
On attend quoi.
Okay. Ouais, voilà. Alors oui, parce qu'il y a pas mal de facteurs où on ne va pas pouvoir y faire grand-chose. Hein. La chute d'un astéroïde. Alors, les dinosaures n'y ont pas survécu et nous non plus. La collision entre la Voie lactée et Andromède. Je tiens à dire que ce que j'avance, c'est scientifiquement prouvé.
C'est des gros chocs.
Faut qu'on dise que Fred n'a pris aucune substance.
Les bombardements de rayons cosmiques ou encore l'alignement dramatique de plusieurs astres. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les scénarios sont à chaque fois assez étayés et présentent une situation qui pourrait arriver dans un...
Mais pour l'instant, ce ne sont que des scénarios où l'homme n'est jamais responsable.
Voilà. Après, le seul dans toute cette liste où l'homme pourrait être responsable, c'est l'univers nucléaire, c'est-à-dire un conflit nucléaire généralisé, ou encore peut-être une pandémie massive due à un virus très virulent, c'est-à-dire avec des manipulations
génétiques. Un virus fait par l'homme, quoi.
Voilà, un virus fabriqué par l'homme.
Ce qu'il faut savoir...
Sur les virus, je vais revenir, parce que ce qui est intéressant dans les virus, c'est que si le virus est trop virulent, il n'est pas dangereux. Parce qu'il n'arrive pas à se développer. Donc, il faut un virus un peu virulent.
Voilà, c'est le truc incroyable, c'est qu'il tue tout de suite, il tue son hôte. Donc, l'hôte humain,
n'a pas le droit. Donc, la contagion ne peut pas se faire.
S'il est trop virulent,
C'est le cas du virus Ebola, où il est tellement...
Surpuissant.
Il ne se répand pas.
Voilà.
Ce n'est pas un risque mondial. Donc, il faudrait un petit virus, il faut que les gens y pensent quand même. Un petit truc
sournois, là, voilà.
Un petit truc un peu sournois. Après, nous, les fins du monde, on peut y réfléchir de manière un peu plus proche de nous, je ne sais pas. On pourrait essayer d'imaginer, on a ce fameux réchauffement climatique, la montée du niveau des eaux. Qu'est-ce qu'on trouve souvent au bord de nos mers? Nos centrales nucléaires. Comment ça va se passer? On nous parle d'une montée des eaux de, je ne sais pas, un mètre. Enfin, les données sont assez variables. Comment va résister je ne sais pas, Fukushima, ce qu'il en reste, ou deux, trois centrales qu'on a vues dans les reportages américains qui sont actuellement démantelées. Que va devenir l'énergie nucléaire dans tout ça? enfin les déchets nucléaires dans tout ça, comment ça va réagir. La fin du monde ne sera peut-être pas une grande catastrophe en un point culminant.
Ça, c'est le discours d'un petit peu de Nicolas Hulot qui explique par le réchauffement climatique qu'il y a des déplacements de population qu'il va falloir prévoir. Et d'ailleurs sûrement les États vont essayer de freiner un petit peu au niveau des frontières. Mais dans ses bouquins, c'était le syndrome du Titanic, si je me souviens bien, même si je crois qu'il a fait un deuxième tome ou une réactualisation de son bouquin.
Je lis pas.
Mais c'est ce qu'il explique par le réchauffement climatique. En fait, on va aboutir à un système de déplacement de population, déplacement des lieux d'agriculture, donc des nouvelles sources d'approvisionnement, donc forcément des sources de guerre.
Bah, c'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est que si on continue à aller dans ce sens-là, il va y avoir une montée des eaux. La montée des eaux va forcément entraîner une réduction des surfaces habitables et donc une nouvelle répartition des populations et une nouvelle donne au niveau mondial.
Bon, mais il nous reste quand même de la place.
Mais ce qu'on avait vu quand même, c'est qu'à Évron, on est bien.
Mais oui, parce qu'on va avoir du vin.
On n'est pas touché par la montée des eaux. Voilà, réchauffement climatique, on pourra recultiver des vignes, etc. Enfin voilà, à Évron, on est bien.
À Évron, on est plutôt pas mal. Voilà.
Oui, Timothée, tu doutes?
Ouais, j'ai un petit doute quand même, parce que bon, monter des eaux, ça peut faire quoi? Sachant qu'on a quelques centrales dans ce secteur, c'est pas forcément bon non plus, quoi.
Bah, ça va les refroidir, peut-être, non?
Ouais. Je dirais que le monde va être refroidi, oui. Mais voilà, si donc notre fin du monde, celle qu'on validerait, ça serait cette lutte contre le réchauffement climatique, on va dire que ça a vraiment été notre lutte de l'année, celle-là.
Finalement, c'est peut-être la seule fin du monde où on peut peut-être agir en tant qu'humain. Et non.
Surtout, c'est la seule fin du monde pour laquelle on a trouvé notre super-héros à nous.
Alors individuel, comme dont on va parler tout à l'heure, notre super-héros. Individuellement, c'est laquelle qui vous fait la plus peur?
De toutes celles que j'ai citées, franchement, aucune. Moi, j'ai pas.
Moi, quand j'entends des trucs comme ça, le truc qui me paraît le plus terrifiant, ce serait un virus développé par l'homme dans des stratégies et qu'après on arrive, qu'il devient incontrôlable. Voilà. Ça c'est truc qui me paraît complètement horrible.
On devient tous assoiffé de sang.
Un truc complètement.
on a tous survécu à la grippe aviaire. Hein. Enfin, je veux dire, on a vu tout ce qui se passait autour du fameux H1N1.
Ah, mais regarde, dans la péninsule saoudienne, de nouveaux virus qui sont arrivés en France. Là.
Peut-être.
C'est arrivé dans le Nord.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
J'ai pas vu.
Et voilà, et justement, tel que le réchauffement climatique va permettre au développement de nouvelles bactéries, de nouveaux virus, dans des nouveaux isotopes, etc. Enfin, il faut peut-être.
Ce qui me fait flipper, c'est qu'il y en a quand même autant de risques, en fait. C'est le nombre qui me fait flipper. C'est même pas l'une d'entre elles, c'est le nombre de possibilités qui est complètement affolant, quoi, finalement.
Oui, mais derrière ça, enfin, moi, ce qui me parle. Parce qu'après, de toute façon, il y a toute une quantité. Moi, la stéroïde, je la rattraperai pas avec mes petits bras. Et puis, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est une sorte de destin. Donc, on peut rien. Enfin, on peut pas lutter contre ce destin-là. Après, ce qui, moi, m'inquiète plus par rapport à tout ça, c'est tous les voyants qu'on voit un petit peu au rouge actuellement sur le fonctionnement de la société dans laquelle on vit et le peu de réactions que cela semble susciter. On a un peu, on va encore citer Jacques Chirac au congrès de je ne sais plus où, il disait notre maison brûle et on regarde de l'autre côté. On aime bien le citer aussi Jacques, et comme Nicolas.
Toi,
c'est toi. D'accord. Et donc derrière ça, on a quand même des choses où on peut faire, on peut agir, et je trouve que on n'est pas assez investi.
Tu parles de l'humanité.
Je parle de toi.
Tu me parles de moi. Non, mais justement, parce que vous avez vu que récemment, on essayait de faire passer une loi qui obligerait les députés, de montrer une transparence, une réelle transparence vis-à-vis du secteur privé, et devraient montrer patte blanche dans leurs opérations. Et finalement, ça n'a pas été accepté, je crois. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça.
Oui,
et moi, personnellement, je vois ça comme un mauvais signe, même d'un point de vue politique, d'un point de vue démocratique, que les politiciens qui sont des décideurs qu'on ne leur impose pas cette transparence-là. Et on va continuer finalement, parce que la politique, bon, moi, c'est ma vision, mais c'est toujours un petit peu du copinage.
Ah bah,
et qui ne sert pas l'intérêt général.
Je voudrais revenir à quelque chose qui était très cher. Nos angoisses, elles se heurtent à notre connaissance scientifique. C'est un moment quand on n'a pas de certitude scientifique, c'est là où on s'imagine tous les possibles, quoi.
Oui, tu veux dire qu'il y a des peurs irraisonnées. Non, mais c'est vrai qu'il y a des peurs irraisonnées. Voilà. Après, sur le sujet, enfin, je ne sais pas sur quelle pente tu voulais m'embarquer, mais pour rebondir là-dessus. Mais alors, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il faut développer la science et la recherche, et il faut développer la rationalité. Et il y a pas mal d'autres mouvements alternatifs à la science. D'ailleurs, on appelle ça les altersciences. On trouve en fait des faits. D'ailleurs, je pourrais même citer Poincaré qui disait « Un amoncellement de faits ne fait pas une science, comme un amoncellement de pierres ne fait pas un mur ». Et ça se retrouve partout. Et d'ailleurs, la culture avec Internet, avec Wikipédia, ou etc., même si Wikipédia, pour l'utiliser, parce que c'est fait par tout le monde, hein, le taux d'erreur dans Wikipédia est très faible. Il est quasiment aussi faible dans les meilleures encyclopédies. La meilleure, je crois, c'est une encyclopédie anglaise. Donc, mais de toutes ces informations-là, on est abreuvé d'infos. D'ailleurs, même quand on se met à chercher sur le net, d'ailleurs, on utilise des moteurs de recherche. Ces moteurs de recherche ont des possibilités de suggestions, et généralement quand on trouve un sujet, on reste dans le même sujet, etc. Et quand on rentre en fait dans les filets informatifs des gens qui vont essayer de chercher à faire peur, et la peur c'est un phénomène bien connu, qui est bien décrypté scientifiquement, et qui permet justement d'influencer facilement le sujet, car après en fait tout simplement il a moins de conscience. Voilà.
Mais nous on n'est pas un magazine de la peur, justement, on est un magazine de l'espoir.
Oui, on essaie de lutter. Alors, oui, on a deux discussions.
Alors, ce qui n'est pas pris en compte malgré tout dans ces scénarios, alors on peut peut-être dire la source, Fred.
C'était un article du Monde daté du mois de décembre.
Alors qu'il y avait quand même intérêt de mettre une sorte de cotation, voilà, entre le probable, etc., le côté scientifique, donc il était plutôt bien fait. En fait, ce qui ne prend pas en compte, c'est plutôt c'est les scénarios où il y a une réelle raréfaction de la ressource. Ressources en eau, ressources en air, etc. Tout ce qui est qualité de l'eau, de l'air, qui nous sont quand même vitaux, à nous humains. Voilà, Timothée ?
Ah bah oui, non, mais je me lève et je valide, hein, c'est vrai. En fait, pardon, on est arrivé à un point où, enfin, ça c'est mon point de vue après, hein, modeste, mais de mon point de vue, on est arrivé à un point où on est tellement nombreux aujourd'hui et tellement évolués d'un point de vue technologique et autres, et aux sciences, que la moindre action qu'on peut entreprendre risque d'avoir un impact global, que ce soit à l'échelle de la Terre ou des ressources, ou alors l'humain en général. Donc effectivement, il y a un risque dû au fait qu'on est vraiment, on a un poids énorme en fait sur l'environnement qui nous entoure.
Mais est-ce que cette idée d'impact global, c'est pas un peu l'effet papillon qu'on avait déjà appris depuis longtemps, où on se rendait compte qu'une action enchaîne une autre, une autre, une autre? C'est un petit peu ça, un peu, non?
C'est-à-dire, c'est aussi le fruit de la mondialisation et d'une planète qui est finalement de plus en plus petite, avec des actions qui sont de plus en plus en interrelation, justement, où chaque chose, on ne peut plus être vraiment local. Je veux dire, chaque chose a des répercussions. Là, sur les panneaux solaires, le débat, c'est est-ce qu'on les fait venir de Chine ou pas. Et ce débat-là, c'est un débat réel, parce que si on les fait venir de Chine, et ben les Chinois, ils en ont moins. Enfin, c'est des questions.
Oui, ça implique plein de conséquences économiques.
C'est des choses à chaque fois. Oui. Et si on les laisse construire, ben nous, on devient dépendants. Enfin, c'est toute une question. Et dans la mondialisation, moi, chose que je trouve plutôt positive, hein, globalement, il y a cette question-là. Et ce qui fait qu'en effet, on est de plus en plus interdépendants, et qu'on doit de plus en plus, nous, pays développés, entre guillemets, se poser la question de nos actions, parce que nous on a encore du choix, on a encore de l'argent malgré la crise, on a encore tout ça, on a un pouvoir, et ce pouvoir là justement on doit être plutôt moteur pour prendre les bonnes décisions que simplement continuer les décisions du ancien ou du passé. Et c'est à nous d'être courageux, je pense.
Bonsoir, voici de retour dans votre émission Un air de vie sur Principe Actif. Le sujet du jour.
Oui.
Bah, il n'y en a pas.
C'est la fin du monde. C'est le chaos.
Fin du monde ne passera pas par Évreux.
Non.
Pourquoi?
Pourquoi ça alors? Pourquoi ça passe par Évreux?
Évreux est trop paumé.
Non, c'est l'attraction, justement. Voilà, c'était à un moment donné, on parle, on discute, c'est sympa de parler autour d'un verre, dans un bar, mais à un moment donné, on a envie d'agir. Et se dire, tiens, on peut faire quand même des choses avec nos petites mains, avec notre tête. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Évreux? Et d'ailleurs...
Écoute, il y a un organisme, une association.
Oui.
Une association qui est là pour nous aider, qui s'appelle l'Espace Info-Énergie.
Tout à fait.
Et donc, Timothée,
eh bien, tout à l'heure, on était parti sur un débat très loin. Et puis, on aurait pu conclure sur pensée globale et agir local. Effectivement, c'est ce qu'on peut, à notre tour, chacun d'entre nous faire. En tout cas, l'organisme que je représente, en fait, c'est le service Espace Info Énergie, qui est un service national, public, neutre, indépendant et surtout gratuit. Il est organisé et piloté par l'ADEME, une entité qui dépend directement du ministère de l'Écologie et de l'Environnement. Et notre objectif, c'est de conseiller le grand public de façon totalement objective sur la maîtrise de l'énergie dans l'habitat. C'est-à-dire.
Alors, je me permets de te couper, mais en fait, quand tu dis piloté par l'ADEME, concrètement, ça veut dire quoi?
Non, mais normalement, dans une émission avec Jérôme, on cite toujours l'ADEME.
Je sais. L'ADEME, on l'a bien dans la peau.
Quand tu dis
piloté par l'ADEME, qu'est-ce que ça sous-entend?
En fait, l'ADEME s'adresse uniquement aux collectivités, aux entreprises. Du coup, elle s'est dit, il faut que je trouve un relais aux particuliers. Elle a créé donc nos services depuis 2001. Donc, en fait, elle nous donne des orientations ou des pistes d'orientation pour le grand public, c'est-à-dire sur la façon de conseiller sur l'énergie, les nouvelles technologies, nous proposer formations et en fait organise le réseau Espace Info Énergie, organise des formations, etc. Donc il n'y a pas de direction vraiment à proprement parler, hein. C'est une orientation, on va dire, de l'ADEME.
D'accord. Et donc, en fait, l'ADEME vous finance?
C'est ça. Elle nous a créé en 2001, nous finance en bonne partie. Et dans mon cas, l'Espace Info Énergie à Évreux, on est financé donc l'ADEME, la région, le département et avec des collectivités comme le GEA et Pont-au-Mer.
Donc, c'est vraiment une aide à mettre en œuvre des actions locales?
Tout à fait. Après avoir testé, Jérôme, l'Espace Info Énergie.
Exactement. Donc, je pourrais apporter mon témoignage.
Voilà, Jérôme, apporte ton témoignage.
Non, mais derrière ça aussi, ce qui est vraiment important, c'est que c'est... C'est à but non lucratif. Quoi.
C'est
vraiment une association. C'est pas on vous conseille l'isolant ISO 20008. D'ailleurs, j'en ai 20 palettes derrière. Quoi. C'est vraiment avoir un regard sur les démarches énergétiques à faire chez soi et sans but derrière de vendre des produits. Quoi.
C'est justement, alors Timothée, par exemple, quand la première fois que tu as rencontré Jérôme, il est venu, il a ouvert la porte.
Je m'en souviens pas.
Bon, d'accord, coupez le micro. Donc, la première chose, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté diagnostic.
Oui.
Voilà, de l'habitat.
C'est ça. Il faut passer par ça de toute façon.
Et avec une pédagogie mais qui m'a impressionné.
Merci.
Bravo.
Merci.
Voilà. C'est-à-dire que moi, j'y connais rien en aglo, en je sais pas quoi, etc. Et je suis ressorti, j'avais l'impression d'être intelligent. Voilà.
Mais en tout cas, si j'ai réussi, merci.
Donc, c'est un point positif.
Un des éléments fondamentaux de ce diagnostic, c'est notamment la thermographie aérienne.
Alors oui, c'est un premier élément, effectivement. Mmh. Alors, moi, mon point de vue, c'est que c'est une opération de sensibilisation et d'information à grande échelle. Malheureusement, on ne peut pas diagnostiquer de fond en comble un bâtiment avec juste une thermographie.
Est-ce qu'on peut rappeler au moins en quoi ça consiste, ouais.
Tout à fait. Alors, c'est en fait, on survole une collectivité, une agglomération avec un hélicoptère, avec une caméra embarquée, une caméra de type infrarouge qui va pouvoir détecter le niveau de rayonnement du bâtiment, c'est-à-dire finalement, si on simplifie les choses, le niveau de perte de chaleur du bâtiment, donc surtout les toitures puisqu'on est en aérien.
Mais vous utilisez quel hélicoptère ? Celui des douanes ?
Alors moi, c'est mon hélicoptère personnel, je l'ai pris sur la base 105, c'est super.
Voilà. Après, l'autre élément de diagnostic qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un questionnement sur l'âge de l'habitat, comment est-ce qu'il est orienté, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes dans telle ou telle pièce, etc.
Oui, en fait, c'est très important parce que entre un bête pavillon des années 70 et une maison qui a 200 ans, c'est pas du tout la même approche, et malheureusement on a trop tendance à simplifier là-dessus, c'est pas du tout les mêmes fonctionnements du bâtiment, et malheureusement si on applique des techniques trop conventionnelles sur un vieux bâtiment, on se plante. Voilà. Donc notre objectif à nous, c'est d'essayer de savoir ce que le particulier a comme projet, comme bâtiment, et qu'est-ce qui est le plus adapté pour lui en termes d'économie d'énergie et surtout de qualité de vie à l'intérieur et de performance du bâtiment, quoi.
Et bien sûr, un autre indicateur qui est très important, c'est la facture.
C'est la facture énergétique.
Voilà. Tout à fait. Ah bah donc il faut venir avec sa facture de consommation de gaz et de consommation d'électricité selon votre fournisseur.
Ou de fuel.
Voilà.
Ou de bois même d'ailleurs.
Voilà. Donc on a vraiment plusieurs dimensions dans ce diagnostic et moi j'ai trouvé ça très intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé, quand vous êtes dans telle pièce, que vous sentez le froid ou pas, enfin voilà, il y a vraiment aussi du ressenti de la personne, des habitants, mais, et ça c'est très important.
Donc ça va très loin parce que justement s'il y a des pièces plus ou moins chaudes, vous peut-être même une vision architecturale en fait des bâtiments, peut-être leur exposition,
oui.
Plein sud, choix des matériaux.
Ça joue beaucoup. Bah après, on ne pourra pas se prétendre architecte, évidemment, mais on se rend compte que tout est lié, encore une fois. Le 1 est dans tout, le tout est dans 1. C'est vraiment un ressenti permanent de chaque pièce. Est-ce que cette pièce est plutôt froide ou chaude et pourquoi ? Est-ce qu'il y a trop d'humidité ? Est-ce que l'isolant n'est pas assez épais ?
Mais en gros, votre but, c'est s'il y a des personnes qui sont intéressées par ça, par rapport à leur gestion, leur impact écologique, aussi l'impact que peut avoir ce coût sur leur facture, ils viennent vous voir et forcément, c'est une solution adaptée. Ce n'est pas forcément une solution la même pour tout le monde.
Ah non, non, non. Il y a des cas où on peut appliquer ce qu'on appelle une solution technique de référence, c'est-à-dire toujours la même solution. Sur un pavillon, sur un quartier qui fait, je sais pas, 30 maisons avec exactement les mêmes maisons, la solution est la même, pratiquement, à part si des gens ont touché leur bâtiment. Mais sinon, dans chaque cas, oui, on essaie de prendre en considération l'état du bâtiment, le statut, je dirais, social de la personne et économique, surtout la situation économique de la personne, et qu'est-ce qu'elle peut faire avec. Voilà.
Alors justement, est-ce que, si tu peux me permettre, Jérôme, quel est le statut social d'une personne?
Alors, enfin, le statut, c'est peut-être un mauvais mot, pas adapté, mais en fait...
Oui, on s'est compris. Enfin,
ouais, voilà.
À quel niveau on peut agir là-dessus ? Parce qu'il faut quand même des sous.
Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'il y a des personnes qui, effectivement, ont des moyens suffisants pour se permettre de faire des choses, mais du coup, ayant des moyens suffisants, ils ne voient pas leur facture énergétique comme les autres. Et donc, bon, ils ne font pas forcément toujours les bonnes choses ou ils ne le font pas. Je vais peut-être m'engager un peu loin. Après, il y a des personnes qui sont effectivement dans un statut beaucoup plus difficile économique et social, et ces personnes-là, ce sont les plus fragiles, et c'est là où on doit vraiment intervenir.
Donc, pour revenir vraiment au déroulé du rendez-vous.
Oui.
Donc effectivement, moi j'avais eu Timothée au téléphone avant le rendez-vous, et donc il m'avait demandé de venir avec des plans de la maison, des factures de consommation d'énergie, un certain nombre de choses. Je crois que c'était
photos aussi peut-être.
Photos. Voilà, notamment des précisions sur l'orientation de la maison. Et une fois qu'on a parlé de tous ces aspects, qu'il y a un diagnostic qui a été établi, on a commencé à parler de ce qu'il fallait faire. Et donc là, il y a quand même une hiérarchisation par rapport à ce qu'on connaît des déperditions de chaleur dans une maison.
Oui, alors la hiérarchisation, si c'est ça que tu voulais effectivement dire, c'est... En gros, c'est déjà, enfin, c'est techniquement ce qu'il faut dire, c'est la solution de négawatt, c'est-à-dire sobriété avant tout. Réduire les pertes, C'est bien ça qu'il faut dans tous les cas, c'est-à-dire vraiment éviter qu'on perde la chaleur pour rien, éviter de chauffer les oiseaux. Et j'utilise toujours, peut-être que j'utilise cette image aussi, le bâtiment neuf ou ancien est une passoire renversée avec une bougie à l'intérieur qui fait le chauffage. Changer la bougie par un briquet, ouais, ça sert strictement à rien.
Ah,
voilà. Ouais. C'est généralement, tout le monde comprend là-dessus, et c'est vrai que c'est aussi notre métier, c'est-à-dire vulgariser le message pour que tout le monde comprenne.
Alors, nous, on a commencé par, bien sûr, les combles,
oui.
le toit, puisque c'est un des endroits où il y a plus de déperdition de chaleur.
L'endroit même.
L'endroit, voilà.
Oui, alors c'est 30% en fait, c'est-à-dire un tiers de ta facture qui part en fumée, dommage. Et du coup, là, effectivement, il faut te conseiller, et donc c'est l'isolation qui prime avant tout.
Alors moi, ce que j'ai apprécié, c'est ce par quoi introduit le sujet Frédéric, c'est que Timothée ne m'a pas vendu du BAS, pardon, je ne l'ai dit pas.
Voilà, ouais, parce que, t'as pas eu l'impression d'avoir fait un VRP, quoi.
Voilà. Timothée, il m'a vendu un mode d'isolation, et il m'a dit, voilà, ça c'est efficace, mais ça a ses limites là, ça coûte tant, ça c'est très efficace, voilà, ça coûte plus cher. Il y a des techniques de mise en œuvre, il faudra être très prudent, et surtout il faut faire appel à des gens qui sont compétents pour faire.
Frédéric. Très important là-dedans, et je reviens un peu sur le coup de gueule de Timothée au départ, c'est toute la démarche de communication autour des différentes actions, autour de l'éolien, du photovoltaïque, c'est fait par des commerciaux. Donc les gens, ils viennent, ils nous appellent, ils nous harcèlent, parce qu'à un moment, ça ressemble à du harcèlement. Et eux, leur but, c'est vraiment la vente. Donc il n'y a pas vraiment un diagnostic de notre maison, parce qu'eux, ils vendent tel modèle, donc ils ne vont pas vous dire, pour vous, ce serait peut-être l'autre, appelez mon collègue, parce que ça ne les intéresse pas. Et ils savent beaucoup agir sur les aides éventuelles, je vais vous installer ça, vous allez gagner tant par an. Mais derrière ça, parce que même cet argent-là, même si c'était réel, parce que ce n'est pas toujours réel, même si c'est réel, finalement, c'est de l'argent public qui est mal dépensé. Si on nous fait installer quelque chose chez nous qui n'est pas adapté à notre domicile, c'est de l'argent qui n'est pas adapté. C'est pas la facture énergétique, la transformation des maisons. Ce qui est important, c'est que quand on investit de l'argent, c'est de bien l'investir, cet argent-là. Parce qu'on ne va pas l'investir 2, 3, 4 fois. On ne va pas dire « je me suis planté, je change en 5 ans ». Quand on fait l'isolation de sa maison, c'est quelque chose qui va durer 20, 30 ans.
C'est vraiment des projets à long terme, c'est pour ça
qu'il y a besoin d'une grosse réflexion au départ.
Quand j'entends ça, justement, de cette réflexion, et tu parles d'une grosse réflexion, j'ai l'effet inverse. Parce que là, j'ai l'impression que c'est chaque individu. Il voit midi à sa porte, et puis celui qui est intéressé, lui fait les démarches, il va réellement se déplacer physiquement à l'antenne d'Espace Info Énergie pour trouver des solutions. Mais les autres, ils ne le font pas, et lui finalement il est en train de balayer pendant que tous les autres font de la poussière autour. Enfin, tu vois ce que je veux dire,
pourtant l'Espace Info Énergie est un service public accessible sans
mais est-ce qu'il ne devrait pas avoir une directive que l'Espace Info Énergie non seulement fasse aussi une info globale aux gens pour qu'il y ait aussi en plus une campagne de communication imposée sur cette notion d'énergie.
Du point de vue de la communication, justement. Comment peut-on connaître l'Espace Info Énergie ?
C'est là où le couteau fait mal. c'est que nous, on a un budget communication qui dépend de l'ANEM. On n'a pas les mêmes budgets que d'autres grands fournisseurs d'énergie. Donc forcément. Donc,
concrètement, par exemple, à Evo, vous avez quoi comme budget ?
Allez, je sais pas si je vais me prendre une torgnole demain au boulot, mais moi j'y vais pas, tant mieux. Mais un poste comme le mien représente à peu près 40 à 50 000 euros, sachant que dedans il y a l'aspect communication qui est inclus. On a un budget sur l'année en plus de l'ordre de 10 à 15, mais c'est très variable. C'est très variable. Nous on est porté par une association, on n'a pas les mêmes budgets que des espaces infoénergie qui peuvent être eux portés par une collectivité, parce que ça existe. Du coup ils ont pas les mêmes budgets non plus.
Donc bon, après des liens portés par une collectivité, ils ont plus de budget.
Fonctionnement collectivité, ils peuvent avoir plus de budget. Est-ce qu'ils l'auront ? Je ne sais pas, mais ils peuvent avoir plus de budget.
Les coordonnées des espaces info-énergie, leur domaine d'activité, on les retrouve en lien sur des sites de l'ADEME, du ministère de l'écologie, du développement durable, des départements, des régions, etc.
Vive l'ADEME !
Donc, je rappelle, c'est un service public.
Oui, c'est beau.
Donc, et c'est gratuit.
Simple
rendez-vous avec Timothée. On n'a pas le café, il nous l'a proposé. Non, pardon. Mais voilà, c'est gratuit et on a un conseil de qualité. Donc, pour revenir un peu à la démarche, on a fait le diagnostic, il y a eu des préconisations, on a parlé en premier des déperditions, donc par le toit, et après, on en est venu à parler de l'isolation des façades.
Tout à fait, oui, c'est très important.
Ah non, moi je t'écoute.
Plutôt isolation extérieure.
Plutôt, oui, tout à fait. Bon, c'est des techniques, il faut les généraliser, hein, de toute façon, comme tu disais tout à l'heure.
En fait, au lieu de faire une technique d'isolation et en fait de réduire l'espace intérieur de ces maisons, on isole par l'extérieur et sans perdre.
C'est comme si on mettait un pull sur nous-mêmes, en fait, autour de la maison.
C'est la notion du pull.
C'est ça.
Ouais, parce que, mais on réduit en même temps les histoires de pont thermique, d'entrée d'humidité.
Tout à fait. Ouais, mais, alors l'humidité, c'est très important. Ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent parler dans un bâtiment. Il y en a toujours. Il faut faire quelque chose et l'isolation, en tout cas extérieure, y répond parfaitement. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui paraissent pas beaucoup, mais accumuler les uns aux autres.
Par exemple, est-ce qu'on pourrait donner quelques chiffres, même si c'est à la volée comme ça, ils n'ont pas forcément très porteur de sens, mais oui. Ça ferait quand même ça permet de fixer les idées. Par exemple, une personne justement qui a un pavillon, un peu un standing, on va dire, et il veut l'isoler entièrement de l'extérieur. Et ça, dans les solutions, à peu près, faut prévoir un budget de combien ?
Alors, les combles, s'ils sont perdus, j'espère en tout cas, ça va pas coûter beaucoup, c'est 2-3 000 euros, c'est le plus rentable. L'isolation des murs par l'extérieur, on a un coût qui oscille entre 150 et 250 euros par mètre carré de mur. Si je généralise, on est à 15-20 000 euros. Après, les fenêtres, on va être aussi sur des coûts qui vont être aux alentours des 5 à 10 000 euros. Donc si on cumule tout ça, en moyenne on est sur des coûts qui sont aux alentours de 50 à 70 000 euros finalement.
Et donc avec le bénéfice donc, de l'énergie qui donc, n'est moins perdue, donc forcément on a besoin de moins consommer.
Tout à fait.
On a un retour sur investissement sur quelle période ?
Alors après voilà, c'est toujours la question qu'il faut poser, ça va dépendre des aides financières parce qu'il y en a. Mettons que la solution la plus favorable avec aide financière, on est capable d'avoir des temps de retour qui peuvent être en dessous de 20 ans. Donc ça commence, ça commence à devenir très intéressant.
Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête sur les aides financières juste après une pause musicale. Est-ce que les aides financières sont très, très, très importantes ?
Ça peut l'être,
oui. Voilà.
Allez, une petite pause musicale.
Faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens, allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit et qu'on n'a pas de fric. Ah, Cédric, je t'écrirai de temps en temps. Toi, tu m'enverras mon virement.
Sous
Et nous voici de retour dans votre émission Un art de vie sur Principe Actif, toujours donc sur la thématique de l'énergie sur Évreux. Alors Jérôme.
Alors donc on a vu avec Timothée, donc qui représente l'espace Info Énergie, je rappelle, représentant un service public gratuit. Voilà. Donc qu'on pouvait avoir un conseil localement, notamment sur un diagnostic thermique de la maison, sur des conseils de mise en œuvre de protection pour réduire les déperditions d'énergie. Et on va voir aussi que Timothée, et c'est
Timothée, on va t'appeler partout, toutes les phases.
Jean-Jacques, Timothée, si tu veux. Et ses deux autres collègues, donc Clément et
Anthony, le nouveau qui vient juste d'arriver.
Voilà, apporte aussi un conseil sur les montages financiers.
Tout à fait. Alors, on avait vu ensemble, je crois, le crédit d'impôt, dont tout le monde peut avoir effectivement les taux. Il y a effectivement l'éco-prêt au zéro qui est un prêt bancaire, même si c'est un petit peu difficile à avoir, hein, il faut l'admettre. Et puis, on a aussi surtout l'aide de la région qui est très importante, subvention intéressante, mais sous condition de ressources, bon, 45 000 euros, hein, et avec une étude thermique, effectivement, qui doit être faite avant tout.
Voilà, parce qu'il y a une condition avant de se lancer dans les devis sur les travaux, c'est qu'il faut réaliser donc, un audit thermique de la maison.
Avec ce fameux hélicoptère.
Non,
ça coûte très cher.
L'hélicoptère, il est posé, il est au sol.
Moi, je suis encore dans les airs. Moi, je suis parti.
Non, non, là, c'est un monsieur qui vient avec une caméra.
Oui, ou sans même, en fait. Non,
ouais. Des fois avec une Zara ou un Kangoo.
Voilà. Et donc, en moyenne, donc un audit thermique, ça coûte
Alors, très bonne question. Sur le marché, on va dire, sans aide financière, sans rien, ce type d'étude thermique-là, ce n'est pas un DPE qui est devenu obligatoire maintenant. C'est le niveau.
Ça veut dire ?
Alors, le DPE, excusez-moi pour le jargon, c'est le diagnostic de performance énergétique. C'est ce qu'on est obligé de faire lorsqu'on met en vente ou en location un bâti. Là, l'étude thermique, c'est le niveau supérieur. On est sur des coûts qui sont aux alentours de 800 à 1000 euros, donc c'est pas rien. Et du coup, la région a proposé de mettre en place une aide à cette étude thermique. Elle l'a fixée à 650 euros et non plus 800, et l'aide à hauteur de 400, ce qui fait que vous avez finalement que 250 euros à payer.
Voilà, mais donc je rappelle, comme tu viens de le dire Timothée, c'est que l'aide est conditionnée par des revenus.
Tout à fait, notamment.
Donc une fois que l'audit thermique est réalisé,
oui.
Donc on retourne à l'espace Info Énergie.
C'est conseillé.
Voilà, pour définir les travaux les plus adaptés.
Oui, alors on va se baser en fait sur le rapport que va vous donner la personne qui a fait l'étude thermique. Et on va l'éplucher avec vous, le vulgariser un peu plus, essayer de trouver les choses à faire. On va essayer avec vous de prioriser les travaux à faire, dans vraiment l'ordre des travaux à faire. Et en fonction des aides qu'on va avoir, crédit d'impôt aux régions, de dire, ben voilà, il faudrait commencer par ça.
Donc on fait faire des devis.
Oui.
Mais c'est là que c'est intéressant. Tu m'as dit, moi, lors du rendez-vous, que ces devis, il ne fallait pas les faire n'importe où, par n'importe qui. Parce que la région reconnaît certaines qualifications, formations, certifications, etc.
Oui, alors il y a des conditions, une nouveauté un peu plus, on va dire. Outre l'aspect revenu, il y a des conditions sur les qualifications de l'entreprise. Même si l'entreprise est très compétente, si elle n'a pas la bonne qualification, malheureusement, la région ne peut pas donner l'aide financière. Donc il faut les reconnaître. Nous, on a évidemment des listes à vous transmettre. Et c'est les formations de type Calibat ou FIBAT.
Voilà, c'est une incitation un peu à la formation aussi, je pense, non ?
Oui.
Pour avoir de plus en plus d'entreprises qui soient réellement formées à la mise en place de certains matériaux et que ça ne soit pas juste aussi des effets d'aubaine. Parce que je veux dire, je pense aussi que quand les gens de l'entreprise sont formés, ça les incite aussi à mettre en place certains types de matériaux ou certains type de construction afin de favoriser une meilleure isolation, un meilleur rendu énergétique de leur construction.
Il y a une chose que je n'ai pas bien suivi, c'est le montant d'une aide, elle peut s'élever jusqu'à combien maximum ?
Alors, très bonne question. Alors, en fait, ça va dépendre du type de travaux que tu fais. Si, par exemple, tu vas isoler tes murs par l'extérieur, donc ce qu'on disait tout à l'heure, on sait que ça coûte entre 150 et 250 par mètre carré, la région va aider à hauteur de 50 euros par mètre carré. Donc, d'accord, ça représente à peu près 25%.
Okay.
Donc ça, après, c'est variable. Hein, après, sur la VMC, elle met 500 euros. Voilà, c'est vraiment des montants.
Et cette grille de budget, on peut la trouver peut-être
sur le site internet de la région.
Venez me voir.
Voilà, alors, ce qu'il faut savoir quand même, il faut l'avoir à l'esprit, c'est que donc, c'est une aide publique. Et l'aide publique est toujours versée après réalisation et paiement. Ah. Voilà. Donc on reçoit l'aide a posteriori des travaux, après les travaux.
Ça, c'est dur.
Donc il faut savoir, il faut l'avoir à l'esprit.
Je pense que tu dois avoir des cas où des gens viennent s'informer finalement. Ce côté financier doit être un frein, non ?
Bah oui, le fait que les personnes doivent avancer.
Comment ils font en fait alors ?
Bah alors du coup, l'une des solutions qui existent, c'est passer par un prêt. Alors après, du coup, c'est le prêt à taux zéro, quoi.
Donc les banques sont au courant
De la région, non. Non, malheureusement, mais...
Lâche-toi, Timothée, vas-y, lâche-toi,
Ça va pas, alors. Ça va pas si les banques suivent pas, non ?
Non, mais le problème, si vous voulez, c'est que chacun des financeurs n'a pas forcément toujours conscience des autres aides financières qui existent sur le territoire. Donc, pour coordonner chacun des financeurs, pour qu'ils se coordonnent et adaptent chacune des aides en fonction de l'autre, c'est très compliqué. Ça passe par des circuits de collectivité, l'inertie, etc. Donc, c'est pas évident de faire quelque chose qui soit vraiment adapté. On a toujours des soucis et c'est pour ça que nous on essaie d'expliquer avant toute chose, attention, vers qui il faut aller en priorité pour être sûr que le dossier passe, quoi.
Donc, d'accord. Ah ok, il y a des trucs et astuces quand même pour pouvoir se débrouiller.
C'est
quoi.
Ça.
Ah, on en est là, quoi.
Donc, voilà.
Pour revenir... Pas des trucs et astuces, mais en même temps les gens sont conseillés quand même. Vous êtes toute cette démarche-là, vous l'expliquez. Je veux dire, je pense qu'à un moment ce qui est important c'est d'être quand même bien informé et après et cette information.
Alors là, je peux témoigner, je l'ai été bien informé. Ça, et donc Timothée, voilà, à l'occasion du rendez-vous, m'avait remis toute la documentation, notamment de la région, le cahier qui explique tout le dispositif d'aide en surlignant. Des fois que je passerai à côté, voilà. Donc effectivement, alors l'autre point aussi que je voulais aborder, c'est que tu as aussi un conseil, enfin tu prodigues un conseil sur le type de matériaux, sur l'isolant.
Oui, oui, notamment on a dû parler fibre de bois. Il me semble que ça s'était resté dans l'esprit. Oui, c'est-à-dire qu'en fait chaque isolant a des avantages et des inconvénients. Donc on essaye de les expliquer. Aux particuliers qui est en face de nous, parce que peut-être que, j'en sais rien, peut-être qu'une laine de verre sera plus adaptée à tel endroit, dans tel bâtiment, mais peut-être qu'une fibre de bois, par exemple, sera mieux adaptée autre part. Il y a des inconvénients qui sont le prix, généralement, mais on a un matériau qui est effectivement plus performant, puisqu'il va réagir à l'humidité, il va réagir au confort d'été, etc. Donc ça, on essaie de l'expliquer, parce que c'est très important aussi. Faut pas toujours prioriser l'investissement à l'instant T, mais plutôt penser à long terme.
Alors, je sais que lors de notre rendez-vous, on a parlé principalement d'isolation, mais on n'a pas parlé de production d'énergie.
Ah, peut-être.
Est-ce que tu...
Alors, en fait, ce que je dis,
tu
moi...
Tu veux assurer un conseil aussi sur ça.
Tout à fait, ouais. Je ne suis pas contre la production d'énergie, mais c'est souvent ce que je dis, c'est que la production énergétique dans un bâtiment, c'est comme la cerise sur le gâteau. Elle vient enfin. J'ai eu le plaisir de visiter une maison qui venait tout juste d'être finie. Il n'y avait rien dedans à part les murs. Voilà, il n'y avait pas de ventilation, pas de chauffage, rien du tout. On était en t-shirt à l'intérieur. Dehors, il faisait moins 15, il y avait 10 cm de neige. Nos collègues, ils se gelaient, mais à l'intérieur, il faisait bon. Il n'y avait pas de chauffage. Voilà. Donc c'est ce vers quoi il faudrait tendre un bâtiment qui est suffisamment isolé et suffisamment bien orienté au soleil pour pouvoir se chauffer tout seul. Mais cela n'empêche qu'on a besoin d'une production énergétique. Et effectivement, là, on va pouvoir vous conseiller sur les types de chauffage ou des choses comme ça.
Mais donc, c'est-à-dire que tous les gens qui habitent dans des bâtiments HLM, dans les bars, on fait quoi en fait tout ça ? On faut tout raser, il faut loger à l'hôtel en attendant qu'on construise des bons bâtiments ?
Non.
Enfin, je ne sais pas si tu passes à Netreville, mais actuellement, il y a des bars à Netreville qui sont en train d'être isolés entièrement par l'extérieur. Enfin, c'est vraiment des démarches qui peuvent être faites d'une manière assez... Alors après, ça, c'est la décision des bailleurs, mais c'est vraiment des choses qui peuvent... Alors non seulement là, ça a l'avantage d'isoler, ça a l'avantage aussi de faire un ravalement de façade complet avec un petit peu un changement d'identité du bâtiment. Enfin moi, j'ai vu là les projets qui sont en cours à Netreville, je trouve ça plutôt assez intéressant.
Oui, c'est vrai. En fait, il y a un potentiel partout et même un bâtiment qui paraît à premier abord un peu vieillot, etc., on peut en faire quelque chose, on peut le revaloriser, c'est un peu ça. On a déjà aussi des interventions de sensibilisation sur les bailleurs aussi pour essayer de montrer que c'est possible de faire quelque chose.
Alors Timothée, rappelle-nous, où est-ce qu'on peut te trouver sur Évreux?
Alors, donc
l'adresse.
Mon service, donc Espace Info Énergie à Évreux, on est porté par l'association Habitat Développement, donc on a le statut associatif. On est au 12 boulevard Georges Chauvin à Évreux, juste dans le bâtiment B du Conseil Général, tout simplement.
Un numéro de téléphone peut-être,
ouais. Oui. Allez, soyons gentils, 02 32 39 89 99 et éventuellement un email pour ceux qui le souhaitent, donc eie@hd27.com.
Et vous demandez Timothée.
Bon, bah c'est super.
Clément.
ou Clément ou Anthony.
Oui.
Ou
Anthony.
Bon, bah merci beaucoup. Bah, voilà,
faut pas demander Antoine, ni Timothy.
Non, ça marche pas. Timothy,
ni Rachel et tout.
Bon, donc le monde a survécu.
C'est le monde a survécu.
Au moins, il
ouais.
a survécu.
Ça a survécu à nos émissions aussi. C'est pas mal. On va pouvoir conclure pour cette, quand même cette dernière, parce qu'on va se quitter pour cette émission.
On revient en septembre
voilà,
ou pas.
Voilà, on fait une saison 2.
On signe ou pas t'as vu le patron ou pas non.
J'ai vu le patron.
Bah, il est en bas, ouais. Là, il est en bas, donc il faut qu'on y aille.
Checker,
et...
hein, je crois,
il faut déjà qu'on paye notre adhésion.
On a attendu. Que... Et bah, j'aimerais bien faire un petit tour de table pour voir justement les impressions. On va commencer par Jérôme, justement, pour... faire un petit bilan de cette première saison de
Alors moi, j'ai beaucoup apprécié plein de choses. Alors, bien sûr, il reste des anecdotes, notamment la première émission où on cherchait les fichiers partout, bien sûr. Mais,
ouais, les galères techniques.
Voilà. Ouais. Après, je pense
le
qu'on...
Le PC qui rame, tout
on,
ça.
On a eu des invités très enrichissants. Alors, je ne sais pas, c'est parce qu'on les choisit bien, peut-être. Mais voilà, mais très enrichissants. Voilà, des thèmes qu'il faut qu'on diversifie, notamment puisqu'il y a plein d'autres thèmes liés à l'environnement. Et c'est très intéressant. Je pense qu'on n'a pas oublié le local. Là,
ouais,
il y a
je pense
eu les piquets
le de
l'émission. Voilà, là on a l'espace Info Énergie. C'était le but de l'émission. Moi je re-signe.
Fred.
Bah écoute, ouais, moi aussi. Au début, dans ce début d'année, sur les premières émissions, on savait pas trop où on mettait les pieds. Alors je sais pas si on sait beaucoup mieux où on les met, mais on sait que c'est intéressant de les poser. Le chemin, je sais pas si on a vu le bout du chemin, mais pour l'instant le déroulé est pas mal. Donc il y a encore pas mal de choses à dire sur des sujets en effet assez divers. On est passé à côté de quelques sujets qui nous tenaient à cœur. Pour ça qu'on revient l'année prochaine.
Et on peut avoir un petit avis de Timothée qui nous a découvert justement par le poste radio de sa voiture.
Exactement, mais depuis que j'ai découvert, je n'ai pas décroché. Donc moi, j'interviendrai avec grand plaisir pour les prochaines. Et j'espère qu'il y en aura des prochaines d'ailleurs.
Voilà, bah merci beaucoup. Merci.
Et attends, je voulais juste le tour de table, il n'y a pas Kevin dedans.
Ouais. Kevin, il nous reste une minute, une seconde, pardon. Et toi, tu reviens ?
Eh bah écoute, moi je reviens pour continuer ces aventures et justement c'est marrant.
Tu nous parles
t'as pas un petit dossier sur le biphénol ?
Tu sais, ouais. Non mais j'ai pas le temps de
parler de couche
lavable
aussi.
Je pouvais vous en parler, mais on va terminer là-dessus et c'est vraiment marrant parce qu'on va terminer sur une petite faute technique quand même.
Un dernier merci aussi, un merci à Gonzalo qui nous a assisté dans la technique. Pendant toutes ces émissions, enfin pour toutes ces émissions.
Voilà. Gonzalo qu'on peut retrouver
qu'on
demain à
12h30. Et voilà,
place
12h30,
on peut rencontrer Gonzalo en vrai.
Pour les 30 ans du festival qui fera
festival
un privé à Babylone avec plein d'invités qui auront fait des directs, etc. Ce sera très intéressant.
Allez,
venez
bisous.
Tous.
Bisous à tous. Ciao, ciao.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
En air de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif. Une parole.